RMC Grand Plateau, Johan Bredov.
Salut à tous, bienvenue dans Grand Plateau. Après 9 étapes sur le Giro, il est temps de dresser un premier bilan de ce Tour d'Italie dominé pour le moment par le surprenant Afonso Eulalio, le Portugais leader. Surprise, mais le plus fort est comme attendu Jonas Vingegaard. Un Jonas froid, calculateur dans sa quête du doublé Giro Tour de France et imperturbable en Italie. Le Danois a remporté les deux étapes les plus difficiles devant un Félix Sagan accrocheur. Dernier homme à contester sa suprématie entre une concurrence qui déçoit, un Français plein de promesses et un Vingy qui n'a pas encore écrasé tout le monde. Ce Giro 2026 est bien lancé. Jonas Vingegaard est-il si impressionnant? On se pose la question dans le Grand Plateau. François Delataille, Maxime Martinez, Jérôme Coppel sont avec moi. Salut messieurs.
Salut.
Salut.
Salut à tous.
Bon voilà, on est parti sur ce Giro. On va dire la première semaine, on va l'appeler comme ça. Forcément, il y a eu un départ en Hongrie, donc c'est un petit peu tronqué. On a parlé beaucoup la semaine dernière de Paul Magnier, qui a brillé sur les trois premières étapes avec deux victoires. Si vous voulez aller écouter ce podcast, évidemment, après celui-ci, vous êtes les bienvenus. Bilan donc de cette première semaine, de cette première partie du Giro. Une question déjà assez large, est-ce que vous prenez du plaisir à suivre ce Giro? Est-ce que vous vous attendiez à ce début de Giro? Jérôme Coppel, je commence avec toi.
Ben moi je me régale, c'est vrai que alors on a beaucoup parlé avant le Giro de la concurrence, mais en fait comme souvent sur le Giro, il se passe toujours quelque chose. Alors malheureusement, c'est pas forcément des bonnes choses pour les coureurs. Alors c'est des chutes, c'est les conditions climatiques un peu compliquées, mais il se passe des choses. On a des Français en plus qui marchent bien, tu as cité Paul Magnier, on parlera sûrement plus tard de Mathis Rondel. Et puis finalement, on a Vingegaard qui écrase pas tant que ça. Donc voilà, il se passe quand même des trucs, les échappées ont leur chance, elles vont au bout. Voilà, on a vu notamment l'étape 5 avec Arrieta qui était complètement dingue avec toutes ces chutes, ces retournements de situation. Pour l'instant, ouais, moi je prends beaucoup de plaisir à suivre ce Giro.
Un leader surprise, Jonas Vingegaard qui est au-dessus du lot. François, toi je sais, on en a parlé juste avant de commencer ce podcast, toi c'est pas le Giro que t'aimes?
Bah, disons que tout m'intéresse dans ce Giro sauf le classement général.
T'as raison.
Tu vois, tu citais l'étape avec Eulalio et Arrieta, c'était super. Enfin, c'était du vraiment, on aurait dit que ça avait été écrit. Les sprints de Magnier, j'étais hyper content de suivre son espèce de montée en puissance, tout ça. Mais oui, en fait, ce Giro, c'est ce que je te disais juste avant le podcast. J'aurais pu te raconter le scénario du classement général avant, et je pense que je peux vous raconter le scénario de la suite. Donc ouais, mais après, est-ce que c'est étonnant? Il est tellement au-dessus.
Et puis c'est pas sa faute. Lui est au-dessus, il n'y a pas beaucoup de concurrence. On savait que finalement, et c'est rare sur les étapes des grands tours, c'est les étapes difficiles qui vont être ennuyeuses finalement.
Oui, c'est exactement ça avec Jonas Vingegaard. Mais pour l'instant, on parle de domination. Évidemment, Jonas Vingegaard est devant, mais il n'a pas fait le trou non plus sur son principal concurrent, Félix Gall. Donc il y a encore
Il s'accroche, Félix Gall, Maxime, à Vingegaard comme ça. Oui, fondamentalement. Et je crois qu'on a fait la liste des favoris sur le site. On s'est un peu tous concertés, on avait tous mis 5 étoiles pour Vingegaard et on avait mis la concurrence à 3, voire certains à 2 étoiles. Donc on pressentait quand même qu'il allait avoir ce classement général qui allait être joué assez rapidement. Après, il y a une question, c'est combien de temps Eulalio va s'accrocher comme ça.
Ça peut finir dès mardi. Hein.
Voilà, c'est ça.
Là, on enregistre, c'est demain le contre-la-montre.
Il y a un chrono de 44 bornes
qui peut totalement
liquider ses espoirs. Et puis oui, après maintenant, combien de temps Félix Gall va réussir à s'accrocher? Après, il lâche quelques secondes par quelques secondes, mais il n'y a pas de véritable trou qui est fait. Et puis après, il peut tout se passer. Hein. Une chute, il vite arrivé, on est sur le Giro.
Il
hein.
n'y a pas de trou parce que Jérôme, il y a un Jérôme Coppel calculateur. Mais oui, toi, t'étais un peu comme ça.
Il y a un chrono pour Jérôme.
Non, mais il y a un Jonas Vingegaard qui est extrêmement froid. Il est dans son style, Jonas Vingegaard. Alors, ça fait énormément de débats sur les réseaux sociaux. On en a un petit peu parlé, on va pas vous le cacher, sur le groupe WhatsApp. Moi, c'est pas forcément le style de coureur que j'aime. Je pense que peu de gens aiment ce style de coureur. Mais c'est vrai que notamment sur la 9e étape, Jonas Vingegaard qui ne passe pas un relais à Félix Gall, qui l'attaque à 700 mètres de l'arrivée, qui va gagner. Toi, ça te dérange pas? C'est comme ça que tu l'attendais, le Danois?
Ben, sur cette étape-là, oui. Alors moi, je suis pas d'accord avec cette réputation qu'on lui fait. Oui, il est pas flamboyant comme Pogacar, comme Paul Sexas a l'air d'être parti. Enfin, dans son style à lui, il a l'air d'être flamboyant aussi. Il est pas aussi flamboyant qu'eux, mais c'est pas un épicier non plus, Jonas Vingegaard. Il court comme ça quand il y a Tadej Pogacar notamment, parce qu'il a pas le choix, parce que Pogacar est plus fort. Mais c'est Paris-Nice, quand il fait péter justement au Tour de France Tadej Pogacar, l'étape du Granon, il a pas fait l'épicier. Là, sur l'étape 9 dont tu parles, Johan, eux, Visma Liseberg, avaient pas du tout prévu d'aller chercher l'échappée. D'ailleurs, Ciccone avait même demandé à l'équipe à Visma Liseberg, si pensaient jouer la victoire ou pas. Ils lui ont clairement dit non. Donc eux, c'était pas leur objectif ce jour-là. Et maintenant, c'est Decathlon qui ont roulé. Félix Gall a attaqué. Il va pas se priver d'aller gagner une étape et de prendre des secondes par-ci par-là. D'autant qu'il a plusieurs objectifs, lui. Je pense qu'il est pas encore au top de sa forme en ce début de Giro. Ça va venir petit à petit. Il a surtout le Tour de France qui arrive après. Et c'était pas son objectif d'aller gagner ce jour-là. Donc finalement, moi, j'ai rien à lui reprocher sur cette étape-là, dans sa manière de courir. Au contraire, même pour moi, il a couru à la perfection ce jour-là. La preuve, il gagne l'étape, il prend quelques secondes, il prend les bonifs, donc c'est tout bénef et son équipe a pas trop roulé ce jour-là.
François, Maxime, vous êtes d'accord avec Jérôme? C'est
totalement.
Un Vingegaard calculateur, mais c'est comme ça qu'on le voyait. Tu parlais des attentes, finalement, c'est du Jonas, quoi.
Non, mais c'est même pas que du Jonas. Des types qui ont gagné des grands tours en courant comme ça, il y en a à peu près tous, à part Pogacar. Et en fait, c'est un peu injuste parce que maintenant, Pogacar a fixé une telle norme de gagner avec en allant chercher 7 étapes, en attaquant à tout va. C'est que ça, c'est un peu en train de prendre le même chemin. Et donc, c'est un peu injuste pour des types comme Vingegaard qui courent finalement de manière très intelligente. Et voilà, c'est quand t'es habitué au foie gras, le pâté, ça te paraît tout fade. Mais ça peut être très bon, un pâté. C'est un très bon pâté, Vingegaard.
Oui, vas-y, Jérôme.
Je vais aller un peu plus loin. Si on parle de Sexas, si on reprend Liège-Bastogne-Liège, Paul Sexas, il est jeune, il est là, il prend des relais avec Tadej Pogacar. On dit, c'est incroyable, il recule pas devant l'adversité, il y va, il prend ses relais, il assume, blablabla. Si on mettait Vingegaard à la place de Sexas, on aurait dit, c'est un idiot, il a roulé, il sec dans la roche au faucon, il va se faire épailler, il comprend pas, il se fait taper dessus toutes les courses. Donc en fait, Vingegaard, il peut rien faire. Il peut rien faire. S'il prend ses relais, s'il attaque, il prend un retour de boomerang, on va lui dire, il sait pas courir, ça fait 5 ans qu'il se fait taper dessus par Pogacar et puis il apprend rien. Et quand il prend pas ses relais pour espérer gagner la course là au Giro ou essayer de battre Pogacar sur le tour, on dit que c'est un épicier. Je trouve que la réputation, elle est quand même un peu dure pour le Danois, même si que ça soit, oui, sa manière de courir est moins flamboyante, ses interviews sont moins flamboyants. Moi, ce qui m'énerve le plus chez Vingegaard, c'est pas sa manière de courir, c'est quand il arrive en haut d'un col, il a à peine passé la ligne, il a déjà le téléphone à l'oreille. C'est plutôt ça qui m'énerve plutôt que sa manière de courir.
Ah, je pensais que tu allais dire quand il lève les bras et il a du mal à tenir en équilibre sur son vélo. C'est pas un acrobat.
C'est dur d'embrasser la potence, lever les bras et avoir déjà le téléphone dans l'autre main. Il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a la famille au bout du fil, forcément.
C'est le contraste avec Pogacar qui fait qu'on a cette analyse du champion raton. C'est comme ça qu'on commence à voir ce surnom qui arrive sur les forums et sur les réseaux sociaux. Mais après, il a très bien joué le coup. Et puis, en fait, c'est Decathlon qui a fait n'importe quoi sur cette étape, en fait.
Oui, c'est ça. Pourquoi Decathlon a roulé?
Oui et non,
Jérôme.
Ils ont roulé pour éliminer la concurrence. Alors peut-être pour gagner l'étape éventuellement, parce qu'ils peuvent toujours se dire que, alors je parle pas que Vingegaard est un jour sans, mais que Vingegaard un peu en seigneur dit bon allez, vous avez fait tout le boulot, je vous laisse la victoire, mais on est au début du Giro, donc c'est quand même pas là que tu laisses des victoires. Ils ont surtout voulu éliminer la concurrence, et là c'est bien joué parce qu'ils ont réussi finalement. Pellizzari a été dans le dur, ils ont repris du temps, donc finalement c'est quand même bien joué. Et puis pour Gall, on sait, on parlera peut-être du chrono après, mais c'est pas sa spécialité le chrono, donc il faut bien qu'il prenne du temps sur son terrain. Et ouais, il risque de prendre un gros éclat. Donc lui, où est-ce qu'il peut reprendre du temps? C'est sur son terrain et c'est sur une étape comme on a eu dimanche.
Et d'ailleurs, on a vu les coureurs de Decathlon CMA-CGM plutôt contents à l'arrivée sur la 9e étape.
Les écarts sont faits en tout cas au classement général par rapport à la concurrence.
Ouais, on connaît le premier, on connaît le deuxième.
Après, ils ont porté le poids de la course pendant toute la journée, alors que... Je vois pas pourquoi ce serait pas Visma qui devrait avoir le poids de la course. Ils avaient décidé de lâcher l'étape. Donc
mais parce que ce Giro, en fait, l'objectif pour tout le monde, c'est la deuxième place. Et donc, en fait, il faut imaginer comme si tu faisais disparaître Vingegaard, la course de Félix Gall, elle est hyper bien. Parce que, comme tu dis, il prend de l'avance sur son terrain. Et je pense que, En fait, être deuxième, c'est déjà hyper bien pour n'importe quel autre coureur que Vingegaard. Et surtout, c'est là, potentiellement, en cas de chute de Vingegaard, récupérer un Giro comme ça. Donc, il a raison de courir comme ça et de ne pas vraiment demander plus à Vingegaard parce qu'il sait qu'ils sont dans des classes différentes.
On va en parler de Félix Gall parce qu'il fait quand même un très très bon Giro. On vient de l'évoquer, mais il évolue à un niveau énorme, surtout dans cette année très particulière quand on est leader comme ça, numéro 1 à la base de Decathlon CMA CGM et qu'on prend Paul Sexas en pleine tête, forcément faut montrer. Mais restons sur Jonas Vingegaard parce qu'on a parlé donc voilà de ce côté épicier, évidemment quand il y a Tadej Pogacar, ça on peut l'entendre et beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux l'entendent, mais maintenant c'est ne pas donner un relais à Félix Gall alors qu'il se sait, plus fort, je pense, Jonas Vingegaard. Mais est-ce qu'il se sait vraiment plus fort? Est-ce que c'est une immense preuve de respect, c'est-à-dire que il met l'Autrichien comme un adversaire vraiment direct, un adversaire à sa hauteur, il roule comme ça justement pour le faire craquer, ou est-ce qu'il a peur de Félix Gall, Jérôme?
Bah, peut-être un peu des deux. Alors peur, je pense pas, justement parce que je reviens encore à ce chrono de mardi, mais donc je pense pas que Félix Gall l'effraie, mais je crois pas qu'il soit actuellement, je parle vraiment, autant au-dessus de l'Autrichien que ce qu'on pouvait penser au départ. Je crois pas que Vingegaard, alors je sais pas comment ils ont préparé, on a bien vu que le début de saison du Danois était très bon et qu'ils préparaient le Giro, mais est-ce que quand ils ont vu la concurrence, après ils ont pas, comme on dit entre guillemets, un peu cassé la forme pour arriver peut-être pas à son pic au début du Giro pour monter en puissance au Giro, récupérer après et avec son deuxième objectif qui sera le Tour de France. Donc je pense que, en tout cas sur cette première semaine, il n'a pas autant de marge que ça, parce que quand il gagne au Blokhus, il part Vingegaard pour gagner l'étape, oui, et pour ça. Assumer la course, comme font tous les leaders la première grosse étape de montagne d'un grand tour. Tous les favoris font ça, et je pense qu'il partait vraiment pour faire ça, pour gagner avec au moins une minute d'avance, et finalement bah, ça s'est pas fait, et il se dit peut-être bah, mince, en tout cas actuellement Gall il est pas si loin que ça, alors j'ai le chrono, je suis pas inquiet, mais j'ai pas tant de marge que ça actuellement sur lui, il faut que je monte en puissance au fil des jours. Donc ouais, peur c'est un grand mot, mais il s'en méfie en tout cas, je pense.
Mais dans un cyclisme où on a des coureurs qui sont capables d'avoir des pics de forme 2-3 fois dans la saison, évidemment je pense à Tadej Pogacar qui en a sur les classiques, sur les...
Oh, il n'en a qu'un lui.
Ouais, c'est
il
toute l'année.
Mais il dure 10 mois.
c'est toute l'année. Non, il est souvent fatigué au Grand Prix Québec-Montréal. Là, ça commence à, c'est un peu compliqué, mais deux semaines plus tard, ça va mieux. Non, mais c'est vrai qu'on a ce Jonas Vingegaard qui, est-ce que, finalement, on avait les mêmes débats un peu quand il a fait Paris-Nice, où il a gagné deux étapes, et sur le Tour de Catalogne, je confonds toujours Catalogne et Pays-Basque, mais c'est Catalogne où pareil, il gagne deux étapes, mais il n'a pas une marge énorme, et on a dit, il ne développe pas assez de watts par rapport à Paul Sexas, par rapport à Tadej Pogacar. Bon, vous êtes quand même pas inquiet en vue du Tour de France, François.
Non, il est en contrôle. Enfin, moi, pour moi, vraiment, il essaie de garder un maximum d'influx en prévision du Tour de France. Il a bien raison de le jouer comme ça. Je pense que, sincèrement, il ne veut pas du maillot rose trop tôt. Là, notamment, tu vois, il y avait l'histoire de la combinaison. La combinaison, de ne pas porter la combinaison rose sur le chrono. Finalement, il va devoir porter la combinaison du meilleur grimpeur. Donc ouais. Mais bon, il veut assumer le maillot rose trop tôt, ça lui sert à quoi? À rien du tout. Je pense qu'il le reprendra sur la prochaine grosse étape de montagne, c'est en fin de deuxième semaine, et puis après, voilà. Mais ça l'arrange bien d'avoir quelqu'un devant lui, ça lui permet de comme tu le dis, de retarder un peu le moment où il a vraiment besoin de d'être en pic de forme, et c'est tout bénef pour le Tour de France.
Maxime, on va parler de Félix Gall, justement, qui reste le dernier loustique qui peut embêter Jonas Vingegaard. Alors oui, il y a le maillot rose porté par Afonso et Eulalio qui est impressionnant. On va l'évoquer aussi parce que c'est un coureur assez particulier, le portugais. Mais Félix Gall, comme ça, quand tu le vois commencer ce tour dans cette année, on disait un peu particulière pour lui.
Il est censé être le capitaine de route de Paul Sexas, c'est plus le leader incontesté de la Decathlon
CMA-CGM. C'est pas évident pour lui aussi de cette saison 2026.
Bien entendu que c'est pas évident, mais Félix Gall est un coureur qui a prouvé ces dernières saisons qu'il avait le niveau pour être en deuxième rideau derrière Pogacar, Vingegaard, d'être un des meilleurs, et il le prouve encore cette fois-ci. Il l'a prouvé au Tour de France, il l'a prouvé à la Vuelta, il le reprouve encore cette fois-ci. Donc c'est pas étonnant. On sait qu'il a des endroits où ça coince, les descentes et le chrono. Alors là, on va avoir un chrono et des descentes, ça ce sera plutôt pour la troisième semaine, parce que la prochaine étape, samedi, t'en parlais, c'est une arrivée au sommet, il n'y a pas forcément de descente plus que ça dangereuse sur le parcours. Mais oui, après, Félix Gall, en second rideau, a toujours été, et là, il est assez proche de Vingegaard. Alors il y a bien entendu ce qu'on disait sur il ne veut pas être, avoir le maillot rose trop tôt, il ne veut pas être prêt trop tôt dans l'optique du Tour de France. Il y a aussi le fait aussi que sa préparation a pu être tronquée par la chute aussi qu'il a eue en tout début de saison au mois de janvier, Vingegaard.
Bien sûr.
Mais Félix Gall, oui, oui, bien entendu, un coureur qui... Et pas, c'est pas étonnant de le retrouver là non plus.
Bah, c'est un coureur qui avait fait 5e du Tour de France. C'était son meilleur résultat sur un grand tour. Jérôme.
Qui a gagné des étapes.
Qui a gagné des étapes aussi. Alors, il gagne peu, c'est un coureur qui gagne peu. C'est un vrai pur coureur de classement général. Félix Gall, il a été là longtemps pourvoyeur aussi du point UCI pour l'équipe française. Mais c'est vrai que là, il est en train de. J'ai l'impression qu'il a passé un cap. Il est monté d'un cran dans son niveau sur le vélo, Jérôme, Félix.
Ouais, comme j'ai envie de dire, l'ensemble l'équipe Décathlon, CMA-CGM, en fait, vous disiez qu'il y a Paul Sexas qui arrive, mais lui, il a été dans la même situation finalement avec Ben O'Connor avant. C'était Ben O'Connor le leader et finalement, il a pris le leadership. Mais comme vous venez de le dire, il a quand même des lacunes. Je pense qu'il sait très bien, quand t'es coureur, même si t'es leader, quand tu vois arriver un jeune avec un potentiel aussi haut que Paul Sexas, tu bien sûr que tu te compares, tu sais les chiffres, etc. Mais il se fait pas d'illusions non plus, Félix Gall. Il sait qu'il ne joue pas dans la même cour que Paul Sexas. Alors Paul a encore rien montré sur les courses de 3 semaines. Il n'en a encore fait aucun de grand tour. Mais il sait qu'il n'aura pas le niveau ni technique ni physique de Paul Sexas. Et je pense que c'est pour ça aussi que dès l'hiver dernier, il a annoncé que son objectif, c'était le Giro et la Vuelta, pas le Tour de France. Donc pour l'instant, le staff de Decathlon gère bien le planning de course de ces deux grands leaders. Mais lui, oui, il a passé un cap. En tout cas, là, il monte sur la première partie du Giro, que c'est en montagne le deuxième plus fort et sans... Il n'y a pas de match avec les autres, en fait. Hein. Il n'y a pas non plus... Donc, Vingegaard, est-ce qu'il y a vraiment un match avec Félix Gall? Ça, on le verra un peu plus tard. Mais Gall, il n'y a pas de match non plus avec Inles, Caroni, Arensman ou les autres derrière.
Zari, ouais.
Voilà, il y a déjà près d'une trentaine d'avance hein, sur le reste des concurrents.
Ouais. Alors par contre, si on prend Arensman par exemple, au chrono, c'est peut-être celui de derrière qui roule le mieux. Donc peut-être que cette minute 30, elle va être gommée par Arensman au chrono. Ça, c'est quand même un vrai problème pour Félix Gall, que ça soit techniquement dans les descentes, vous l'avez dit, et en chrono. Ça risque de lui coûter cher et il faudra surtout qu'il arrive à garder la forme qu'il a là encore 2 semaines. Et que les autres, ses poursuivants, eux, ne montent pas en puissance. Janeley, il a quand même déjà gagné le Giro. On a l'impression que Pellizzari, il est un peu en train de plier les ailes. Donc est-ce que Janeley lui va pas monter en puissance, il a l'expérience, etc. On verra, mais Félix Gall, c'est clair qu'il a passé un palier, mais voilà, de nouveau, comme toute l'équipe Décathlon, CMA, CGM.
Deuxième du Giro, t'y crois François, Félix Gall?
Pourquoi pas, ouais, mais alors tu disais que c'était un vrai problème le fait qu'il soit un peu léger en chrono. Moi, pour moi, c'est plus que ça, c'est un énorme problème. C'est comme un tennisman qui se dit je vais gagner des grands chelems mais qui n'a pas de service. Tu vois, c'est une vraie faille qui fait que c'est bizarre d'avoir un coureur dont, et tu le disais, un vrai coureur de classement général qui est un tel trou dans son CV. Et c'est pour ça que je veux me. Deuxième du Giro, oui. Il en a les capacités parce que derrière, bah, il fait des vraies différences en montagne, tout ça. Mais c'est aussi pour ça que je me dis que Vingegaard n'a absolument pas peur de Félix Gall. Parce que là, sur 42 km, il peut lui mettre 4 minutes. Et bon courage pour les rattraper.
Mais pour la deuxième place, c'est vrai hein, tout ce que
place,
tu dis.
Oui.
Mais pour la deuxième place, derrière, qui y a qui est vraiment
place,
au-dessus
oui.
de lui au chrono, par exemple, tu vois? Je veux dire, si tu prends ses poursuivants, Inglés, Caroni, il n'y a que Arensman. O'Connor, s'il est dans un grand jour, il peut faire un chrono qui est pas mal.
Mais c'est sinon,
Storer, Pellizzari, ouais, voilà. Donc la deuxième place, c'est quand même jouable.
Oui, carrément.
Ouais, évidemment, mais c'est vrai que ça a pu jouer aussi hein, ce chrono de 42 km sur la première semaine de Vingegaard, sans vouloir prendre trop de risques non plus, sans vouloir de laisser trop d'influx, parce qu'il sait très bien que il est un des meilleurs rouleurs du monde, même s'il reste pas sur des chronos en grand tour qui sont exceptionnels, mais bon, il est.
C'est la méthode Indurain.
Exactement.
Tu casses tout au chrono et après tu gères.
Exactement. Par contre, il est largement meilleur que les autres. On a parlé de Félix Gall. Parlons également de ce maillot rose porté par Afonso Eulalio, parce que bah, tu disais que le classement général est peut-être moins intéressant, mais là ça fait partie des très belles histoires. Alors il n'a jamais gagné en carrière, Afonso Eulalio. Il a pris ce maillot rose lors de cette fameuse étape dont tu parlais, Jérôme, avec la victoire de l'Espagnol Igor Arrieta. Mais c'est vrai que Il fait un Giro qui est exceptionnel. Ça donne des ailes, vraiment, ce maillot rose. Moi, ça me fait penser un petit peu à Julien Alaphilippe quand il l'avait eu en 2019, où ce maillot jaune lui avait donné vraiment un élan. Il avait remporté un chrono, il avait fait des étapes de montagne. Dantès, qui fait deuxième du Tourmalet derrière Thibaut Pinot. Là, on a vu sur le Blockhaus, déjà, il fait 15e ou 16e, mais en tout cas, il est très bien placé. Il perd 3 minutes quand même sur Vingegaard. Mais surtout, moi, sur l'étape 9, hier, je l'ai trouvé exceptionnel. Ouais, c'était hier, on enregistre le lendemain. Mais Jérôme, il a été exceptionnel, donc, sur cette 9e étape, en s'accrochant, et quand je l'ai vu apparaître sur la ligne d'arrivée, j'ai été bouche, mais je me suis dit, ah, il est déjà là. C'est incroyable quand même, à quel point ça le porte.
Oui, bah, de toute façon, alors, personnellement, j'ai jamais eu la chance de porter un maillot de leader sur un grand tour, mais tous ceux qui l'ont porté disent la même chose, que ça te donne des ailes, ça te pousse, ça donne confiance, le public, tes coéquipiers, eux, ils ont quand même, dans cette équipe Bahreïn, ils ont Caruso, qui a de l'expérience, qui est là pour l'aiguiller, qui fait un super boulot pour lui. Et c'est vrai que sur l'étape de dimanche, quand je le vois péter du groupe, je me dis, purée, il risque de prendre un peu cher, et d'un seul coup, on a l'image de l'arrivée, et paf, il fait cinquième. Donc, en plus de ça, il est en train de prendre de l'expérience, pas qu'avec le maillot rose, mais même dans sa gestion de course, parce que le Blockhaus, on a bien vu, alors il a limité les dégâts, mais il s'est accroché, il a explosé. Peut-être que s'il s'était relevé un peu avant, il aurait pu faire une meilleure montée. C'est toujours facile à dire après coup, mais en tout cas, l'étape de dimanche, bah, il a déjà appris par rapport au Blockhaus. Il s'est peut-être relevé un peu plus tôt, il a fini plus fort. Et bien sûr que d'avoir un maillot de leader comme ça, lui, c'est sa deuxième année seulement en World Tour. T'es leader du Tour d'Italie, t'as toute une équipe qui est à ton service. Déjà, t'as pas envie, peut-être que s'il avait pas le maillot, l'étape du Blockhaus ou de dimanche, oui, il se serait complètement relevé. Il aurait dit bah tant pis, j'ai pas les jambes. Mais là, tu peux pas le faire avec le maillot rose. Tu t'accroches, tu repousses tes limites, tu vas battre tes valeurs de puissance, etc. Et c'est ça aussi qui fait, quand t'es un jeune coureur qui vise le classement général de course par étape, c'est ça qui te fait progresser en fait. C'est que tu surtout avec un maillot de leader, bah tu vas dépasser tes limites étape après étape finalement.
J'ai eu un flashback hier en voyant l'arrivée des Eulalio. C'est Vauclair.
Oui.
Qui arrive au plateau de Bay en 2004 et qui garde le maillot pour quelques secondes. C'est vraiment ça. C'est le maillot jaune, rose, rouge, selon le grand tour sur lequel tu es, te transcende. Et là, il reste encore 2 minutes 24 d'avance sur Vingegaard. Donc, il y a le chrono, bien entendu, mais ça va être intéressant à voir dans les prochains jours si même ce maillot arrive à le transcender sur ce chrono pour essayer de conserver encore quelques secondes d'avance sur Vingo.
Ouais, non, mais t'as raison, c'est vraiment, tu sens dans sa tête, t'entends, tu le vois pédaler, t'entends, allez, un jour de plus, allez, ouais, un ça. Jour de plus, allez, un jour de plus. Et en fait, c'est ça, il est dans cette recherche-là. Je pense qu'effectivement, il va le perdre après le chrono, mais que ce soit lui ou un autre, je pense aussi qu'il n'est pas impossible que Vingegaard relâche le maillot rose après à quelqu'un de pas dangereux, pas un de ses concurrents, mais à quelqu'un de pas dangereux, et qu'il y ait une autre belle histoire d'un coureur qui sera porté par ce maillot rose sur la deuxième semaine jusqu'à ce que définitivement la Visma le kidnappe.
Ouais, exactement, oui. Jonas Vingegaard, il va pas le laisser très longtemps. Après, faudra contrôler. Juste un mot également, on les a rapidement évoqués, mais les autres... L'autre concurrence, donc les Pellizzari, les Hindley, les O'Connor, je pense surtout à Pellizzari, mais on est déçu quand même de ce qu'a fait l'Italien. Je pense notamment à sa montée du Blockhaus, qui est à peu près n'importe quoi. On a l'impression qu'ils apprennent pas, qu'ils regardent pas les courses, mais suivre un Jonas Vingegaard comme ça, c'était pas du tout la solution. Il a complètement explosé, François.
Ouais, non, mais c'était pas très bien couru, et c'est là où on voit qu'il y a encore des grosses erreurs de jeunesse, et que bah, peut-être que aussi l'équipe a peut-être surévalué sa capacité à tenir tête à Vingegaard, et c'est en s'approchant trop de la zone rouge, bah tu perds tout en fait.
Ouais, tu te brûles les ailes. Hein.
Exactement. Mmh.
Forcément. Du coup, le leadership chez la Red Bull, Jérôme, c'est Jay Hindley qui va l'avoir pour la suite de ce Tour d'Italie, parce qu'en plus, Pellizzari craque très vite lors de la 9e étape. Hein.
Oui, alors je sais pas. Honnêtement, sais pas, parce que finalement, il y a quoi ? Il y a 45 secondes d'écart entre les deux. Donc je pense qu'ils vont faire un point plus précis après le chrono. Le chrono, on en parle beaucoup, mais c'est une étape charnière de ce Tour d'Italie. Donc là, je pense qu'ils gardent encore leurs deux leaders. Alors, je suis pas complètement d'accord avec vous sur la montée de Pellizzari sur le Blockhaus, parce que il est jeune, je pense qu'il doit essayer aussi, ça fait partie de son apprentissage. Là où je vous rejoins un peu, c'est que les attaques de Vingegaard depuis cette année, je trouve, elles sont un peu traîtres. Ouais. Parce qu'il attaque, mais il ne fait vraiment pas une grosse différence tout de suite. Mais en fait, c'est le temps de maintien qu'il a derrière quand il garde cette puissance très haute. Donc, tu arrives, il attaque, tu le laisses partir. Ensuite, il stagne un peu, ce qu'il a fait avec Pellizzari. Et Pellizzari a réussi à boucher le trou et il s'est sûrement dit, purée, Vingegaard, il est peut-être pas si bien que ça. Je vais pouvoir m'accrocher. Et en fait, après, c'est un peu le rouleau compresseur jusqu'à ce qu'il fasse exploser tout le monde. Et je pense que c'était finalement une bonne chose qu'il essaye quand même Pellizzari pour voir vraiment l'écart qu'il a avec Vingegaard. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est l'étape de dimanche où là, il saute quand même de bonne heure. Alors, on n'a pas eu d'explication en plus si une mauvaise journée. Si c'est un jour sans, il a plutôt bien limité la casse. Mais par contre, s'il était dans un jour classique et qu'il a pété, c'est pas bon signe pour la suite parce que sur un grand tour, tu te refais pas d'étape en étape.
Tiens, justement, on peut faire un petit point sur le classement, Maxime. Je vois que tu l'as sous les yeux. Mais donc, tu le disais, Eulalio est largement devant. Donne-nous
2 minutes 24 d'avance sur Jonas Vingegaard, qui est deuxième. Félix Gall est troisième à 2,59. Hindley quatrième à 4,32. Donc, il y a déjà quand même un sacré trou. Scaroni cinquième. Arensman sixième pour la Net Company Ineos. Mathis Rondel septième. On va en reparler dans quelques instants. Ben O'Connor huitième. Pellizzari 9e à 5,15. Donc vous voyez, entre la 4e place et la 9e place, ça se tient en moins d'une minute. Et puis le 10e, c'est Mikael Storer avec 5,20 de retard sur Eulalio.
Ouais, le coéquipier justement de
à noter la 11e place de Markel Bellocchi, le fils de Joseba Bellocchi.
Bien sûr, qui est là et qui est un très très bon grimpeur, 20 ans seulement, Bellocchi.
On Bernal, va parler des et jeunes. Et Bernal qui a explosé, qui est à 6,49 à la 15e position.
Un dernier mot avant de parler de Mathis Rondel sur le tour des UAE, parce que finalement c'est une équipe qu'on n'a pas évoquée sur le classement général. C'est étonnant, mais bon, tout le monde est tombé très très rapidement. Mais j'aimerais ce qu'on fait dire
décimé.
Tant mieux, tant mieux, parce que François, c'est l'équipe qui fait le spectacle, qui se trouve des capacités de baroudeur, parce qu'il y a des coureurs d'immenses talents et qui gagnent des étapes. Ouais. Et c'est comme ça qu'on aime les voir aussi.
Et moi, ça me fait trop plaisir de voir justement tous ces types-là qui d'habitude sont obligés de charbonner dans l'ombre, sans beaucoup de reconnaissance, en tout cas de tickets de sortie qui leur permettent de s'illustrer tout seul. Et là, de voir Narvaez prendre deux étapes en plus avec un style très flamboyant, c'est finalement, je suis désolé pour ceux qui sont tombés, mais je suis content de voir UAE dans un autre rôle, dans ce rôle-là, et ça, c'est un des trucs qui m'a plu dans cette première semaine du Giro.
Et c'était à peu près la même chose aussi sur la Vuelta, même s'il y avait Joao Almeida, mais il y a une stat qui est hyper intéressante, Jérôme, sur les deux derniers grands tours, il y a eu 9 fois l'échappée est allée au bout, il y a eu 7 victoires d'un coureur du UAE, c'est quand même incroyable, ils sont capables de dominer avec Tadej Pogacar, avec Joao Almeida, même s'il est un petit peu moins en vue cette saison et qu'on attend d'ailleurs sur la Volta, il devrait zapper le Tour de France, le Portugais. Mais c'est vrai que c'est une équipe comme ça qui a tellement de talent qu'on est content de les voir en échapper et dynamiter les étapes.
Tout à fait. Et puis moi, je les ai des fois un petit peu critiqués parce que je trouvais que leur stratégie n'était pas toujours la bonne. Alors quand t'as Tadej Pogacar, la stratégie est assez simple et c'est toujours la bonne parce qu'il gagne toutes les courses. Mais là, quand t'as un début de grand tour aussi catastrophique qu'ils ont eu avec cette malchance et que t'arrives à te reconcentrer sur d'autres objectifs, aller gagner des étapes, etc., ça montre la profondeur de ton effectif et la qualité de ton effectif. Je veux dire, ils ont que des machines dans cette équipe-là, t'as pas un mec acheté dans leur effectif. Et dès qu'ils ont leur chance, c'est vrai que vous l'avez dit, ils n'ont pas beaucoup leur chance le reste de l'année, mais dès qu'ils ont leur chance, ils ne se ratent pas souvent. Et d'ailleurs, il vaut mieux pas se rater. D'ailleurs, quand t'as ta chance dans cette équipe-là, vaut mieux pas te rater parce que des fois, elle revient pas tout de suite, l'opportunité d'aller à l'avant. Ben voilà, là, on a eu Arrieta, on a eu bien sûr Narvaez qui a gagné deux fois, mais Christen, on l'a bien sûr vu aussi à l'avant. La deuxième étape, plutôt que Narvaez gagne, Bjerg fait un boulot incroyable. Collectivement, ils sont plus beaucoup au départ du Giro, mais on les voit tous par contre. Ils ont tous leur pierre à apporter à l'édifice, et ça marche très très bien.
Et ça fait 3 victoires d'étape, donc le doublé de Narvaez et Igor Arrieta. Un dernier mot avant de passer au baromètre des Français, avant de parler de Mathis Rondel.
On parlait d'Arrieta et on a eu des scénarios absolument dingues lors de cette semaine du Giro. Autre scénario complètement fou, c'est celui de l'étape de Naples avec un tracé. Oh punaise, une arrivée sur des pavés avec une épingle à cheveux à 450 mètres sous la pluie, parce que sinon c'est pas drôle,
pas drôle.
Bien entendu, tout le monde se gamelle. mine de rien, Paul Magnier absolument porcif sur qui fait troisième ouais. alors qu'il repart quinzième après une chute. Enfin voilà, vraiment un scénario de dingue et un tracé totalement fou et bon, on se demande comment ça peut être encore
remporté par
David
Ballerini. Hein,
remporté par Ballerini ouais. avec Stuyven qui fait deux.
Ouais, mais là, tu soulèves un vrai sujet quand même. Là, il y a quand même un problème de la sécurité. Quel est l'intérêt d'aller faire une arrivée là-bas ? En plus, on la connaissait déjà.
Alors qu'on a des lignes droites immenses voilà. à Naples ou sur le Lungomare où on peut faire de très belles arrivées.
C'est
et
ça.
C'est ce qui était fait d'ailleurs avant. Alors, il y a eu des travaux apparemment là où ils font l'arrivée d'habitude.
Ouais.
Mais on peut la mettre 500 voilà. mètres avant. Quoi. Enfin,
il n'y a qu'une seule avenue à Naples.
Oui.
Je vais encore passer pour le vieux grincheux, mais l'UCI, au lieu d'aller regarder l'écartement de tes cocottes et la hauteur de tes chaussettes, il y a peut-être mieux à faire. Il y a peut-être, bon, les chaussettes, ils ont un peu abandonné, mais il y a quand même mieux à faire sur la sécurité des arrivées. En plus, là, c'est déjà la veille, tous les coureurs disaient oh là là, ça va être dangereux demain, les pavés, la pluie. Donc tout le monde le sait depuis que le parcours du Giro
quand
est sorti.
Quand tu vois
tout
le roadbook, c'est sur le roadbook, c'est un truc de dingue. On voit cette petite épingle minuscule. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette arrivée ? C'est complètement irresponsable.
Bah, si vous réécoutez le podcast de présentation du Giro qu'on a fait avant, oui, on a parlé de cette arrivée et on a dit ici ça va tomber et ici
et c'est tombé. Tombé.
Oh, il voit tout, c'est fou en fait, c'est dingue.
Et Madame Irma. Sorti ta boule de cristal, François.
Et oui, bien sûr, François, il connaît tout. Mais oui, c'est vrai que cette arrivée a été particulière. Après, ça donne un final rocambolesque. Et c'est vrai que Paul Magnier, je crois qu'il a repris 15-20 secondes sur 500 mètres. Alors, Jasper Stuyven avait roulé pour lui à la base.
Il y avait 100 mètres de plus, il allait gagner.
Ah, mais c'était fou. La puissance dégagée par Paul Magnier, il en gagnera d'autres sur ce Tour d'Italie. Le Français qui a brillé en début de Giro. On va parler justement d'un autre Français.
RMC, le baromètre des Français.
Et il y en a un autre qui brille, qui nous fait plaisir, c'est Mathis Rondel. 22 ans seulement, coureur de la Tudor, 7e du général. Alors il est à 5 minutes d'Eulalio. Ça va compter parce qu'il y a un classement aussi de meilleurs jeunes à aller chercher. Objectif, c'est quoi ces objectifs ? Le maillot blanc maintenant, Jérôme Coppel, c'était peut-être pas prévu en début de Tour d'Italie. Il y avait peut-être la concurrence avec Storer, hein, on en parlait, qui fait partie des coureurs très, très réguliers sur les classements généraux. Mais là, Mathis Rondel, il est en train d'épater tout le monde.
Bah, il est pas de tout le monde. Je pense que son objectif, c'est de faire le meilleur classement général possible et le maillot blanc, enfin le maillot de meilleur jeune, arrivera avec.
Tiens, j'ai déjà entendu ça pour le Tour de France, il y a pas longtemps.
Voilà, tout à fait. mais moi, franchement, il m'épate vraiment sur ce début de Giro. Alors, on connaît ses qualités, c'est pas quelqu'un qu'on découvre sur ce Giro. Et je pensais pas qu'il serait si fort sur ce type de montée-là. Il court très bien. C'est vrai qu'il est un peu on parle beaucoup de Paul Magnier, Paul Sexas, bien sûr, et lui, on n'en entend pas du tout parler. En plus, il est dans une équipe étrangère. Il passe un peu sous les radars, mais il est toujours là. Il marche tout le temps. Et je pense. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il fait. Là, il a fait deux superbes étapes dimanche dernier au Blockhaus, mais il n'est pas content de son résultat.
Oui.
Il dit ouais, c'est bien, mais je peux mieux faire. J'étais pas super. La montée me convenait pas très bien. C'est pas du tout des excuses qu'il cherche. C'est juste, il est factuel. Il dit je pense que je peux mieux faire. Je sens que je peux mieux faire. Et il l'a dit que dans la fin de deuxième semaine et surtout dans la troisième semaine, s'il récupère bien, normalement c'est des cols qui lui conviennent mieux. Donc on devrait encore voir Mathis Rondel à l'avant et voilà, je pense que peut-être s'approcher d'un top 5 s'il a pas vraiment de trou d'air sur une étape, c'est pas impossible quand on voit la concurrence devant lui ou juste derrière lui. Je reviens encore une fois là-dessus, ça dépendra aussi beaucoup du chrono bien sûr, mais il peut faire un super Giro et pas beaucoup de suiveurs et même nous d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on aurait été beaucoup avant le Giro à le mettre dans un potentiel top 5 au classement général.
Ouais, même top 10 pour Mathis Rondel qui découvre forcément ses courses de 3 semaines mais qui a fait 8e de Paris-Nice cette année, 5e du Tour des Alpes. Là, il a quand même des objectifs à aller chercher et Jérôme le disait et topinait François. Mais voilà, il est pas content de lui, il a des grosses ambitions pour ce Giro.
Ouais, et je suis complètement d'accord avec toi, Jérôme. Moi non plus, je le voyais pas aussi fort que ça. Mais en fait, ce qui est frappant, c'est qu'il y en a un qui le voyait aussi fort que ça, c'est lui-même. Lui,
il se
voit tout à fait dans la discussion. Il l'annonçait dès le début. Moi, mon objectif, c'est d'être un coureur de grand tour, d'en gagner un jour. Il assume ses ambitions à 22 ans. Au début, on sourit. Et puis là, en fait, moi, je commence à plus sourire du tout. je lui vois un vrai potentiel. Alors, je te dis, on en est très, très loin. Mais là, déjà, de faire ce qu'il fait à son âge et avec l'assurance et en plus avec une exigence envers lui-même qui fait que bah, même s'il est bien, il n'est pas juste tout béat en se disant oh, c'est vraiment super, il a envie de progresser encore, c'est une super attitude.
Ouais. T'attends quoi justement pour cette fin de Giro? Est-ce que le maillot blanc il peut aller le chercher?
Alors il y a un hic pour le maillot blanc, c'est que l'écart, on parlait de 2 minutes pour Vingegaard, l'écart il est de 5-0-1 avec sur Eulalio. Et on parlait de Vauclair tout à l'heure en 2004, je vous rappelle que Thomas Vauclair il prend le maillot blanc après le maillot jaune quand Armstrong le récupère sur, juste avant l'Alpe d'Huez, et qu'il le garde jusqu'à la dernière étape, et c'est Carpets qui le reprend à la dernière étape parce que bah, sur le chrono il lâche. Donc il y a quand même cet écart qui est quand même assez important, et est-ce que Eulalio va pas vouloir aussi garder ce maillot blanc, et est-ce qu'il va y arriver à récupérer ses 5 minutes? Et surtout il y a une concurrence derrière, c'est que juste derrière à 5-15, donc à 14 secondes derrière Rondel, il y a Pellizzari qui est son concurrent direct pour le maillot blanc, donc il y a quand même une grosse concurrence pour ce maillot. Après, il en a totalement les capacités de le faire.
C'est... Tu vois, moi, Eulalio, je ne le vois pas du tout comme un concurrent parce qu'il a pris ses minutes sur sa grosse échappée.
Il est en sur-régime, tu penses ?
Ouais, bah, c'est pas qu'il est en sur-régime, c'est qu'il bénéficie de c'est un maillot rose un peu en trompe-l'œil, et derrière, je le vois bien exploser beaucoup plus facilement qu'un Mathis Rondel. Je le vois bien exploser dans les grosses étapes de montagne. En revanche, Pellizzari me fait plus peur pour le maillot blanc.
Ouais. On verra dans ça. Tout cas, il y aura de la bagarre. En tout cas, avec Pellizzari, ça c'est sûr, pour savoir qui sera le maillot blanc. Il y a aussi Bellocchi qui est à une minute juste derrière.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une magnifique course à suivre sur ce classement de meilleurs jeunes. Alors je sais, parce que je te suis sur les réseaux, Jérôme, que ce classement de meilleurs jeunes, bon, tu as envie de changer un petit peu les règles. Bon là, ils rentrent dans le cadre, en tout cas. Mathis Rondel rentre dans le cadre. Peut-être pas Eulalio, mais Rondel, oui.
Oui, non, mais là, sur le Giro, en fait, j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux, mais en fait, ça dépend toujours. J'ai pensé à ça, parce que bien sûr, il y a Paul Sexas qui potentiellement peut l'avoir pendant 7 ans. Et on a eu le cas avec Tadej Pogacar, mais parce que c'est des phénomènes. Mais c'est pas vraiment par rapport aux coureurs et au classement pur. C'est juste qu'à l'époque, on passait pro à 21, 22 ans, et maintenant, il passe pro à 19 ans. Donc, est-ce que ce maillot de moins de 25 ans fait encore du sens? Je sais pas. Et là, la preuve sur le Giro, ça me prouve le contraire, parce qu'il va y avoir de la bagarre, et puis le classement finalement serait très bien comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a le cyclisme évolue, et je pense que les classements annexes doivent évoluer aussi.
Mais chez les femmes notamment, c'est moins de 23 ans, il me semble. Ouais, donc, on pourrait s'inspirer de ça, et vu que les coureurs passent pro de plus en plus jeunes maintenant. Mais en tout cas, Mathis Rondel peut aller très haut. Oui, Jérôme.
Ouais, non, bah juste pour clôturer ce petit débat là sur le maillot blanc. Du coup, sur les réseaux, il y a pas que du mauvais hein, quand même sur les réseaux. Il y en a qui m'ont donné 2-3 idées. Mais et oui. Quelqu'un disait pourquoi on ferait pas, on oublie l'âge et on fait le meilleur
premier tour
beginner.
Ouais, le meilleur rookie,
celui qui découvre, et voilà, rookie, c'est ça exactement. Le meilleur rookie. Je trouvais que c'était une bonne idée. Alors le maillot blanc, du coup, c'est faudrait mentalement se déprogrammer pour oublier que ce soit le meilleur jeune. On oublie l'âge et le meilleur rookie du tour peut être maillot blanc. Et ça, je trouvais pas mal, parce que finalement, tu peux découvrir le tour à 29 ans ou 30 ans et pouvoir aller sur le podium avec un maillot distinctif.
Mais donc là, c'est Vingegaard maillot blanc.
Ça serait marrant.
Je suis d'accord.
Pourquoi pas?
On peut créer un maillot comme ça. Un cinquième maillot, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant, mais c'est vrai que quand
Jonas Vingegaard. Très longtemps, t'as eu le maillot noir au Giro pour le dernier du classement général.
Ah oui.
Donc il y a eu d'autres maillots distinctifs aussi à une époque.
Du combiné. T'es
magnifique ce maillot d'ailleurs.
Ouais. Mais t'es content de le porter parce que t'es content d'être dernier en général. On vient de voir donc c'est pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Giro. On va faire une toute petite entorse en parlant d'une autre course qui a eu lieu cette semaine et qui a fait polémique aussi. C'est le Tour de Hongrie avec Benoît Cosnefroy. Ça reste évidemment dans le baromètre des Bleus. Un mot avec toi, Jérôme, parce que je sais que tu avais un cœur d'en parler. Maxime et François aussi, évidemment. Lui qui termine deuxième du classement général derrière Jakob Söderqvist, le Suédois. Mais bon, il y a rien. Ça va être compliqué de tout résumer, mais c'est vrai qu'il y a une course, la quatrième étape qui a été tronquée, qui a été arrêtée. La décision a été prise pendant l'étape d'arrêter à 40 km de l'arrivée, il me semble.
Ils ont retiré un tour.
Voilà, ils ont retiré un tour sur le circuit, et on a pris les écarts à ce moment-là. Forcément, la course n'était pas jouée. Personne n'avait prévu de jouer cette étape de la sorte. Ça a bénéficié aux Suédois qui s'est imposé du coup au général. Mais Benoît Cosnefroy s'est fait voler. On va le dire comme ça, on va le dire clairement, Jérôme. Ouais.
Oui, oui, il s'est complètement fait voler. Enfin, c'est une catastrophe, je veux dire, gérer comme ça. Les conditions climatiques, d'accord, étaient exécrables, mais tu peux prendre la décision avant. Tu peux pas raccourcir de plus de 25 km une étape, sachant qu'il y a une échappée et que, en l'occurrence, l'équipe UAE Team Emirates de Benoît Cosnefroy gérait l'écart par rapport aux kilomètres restants. Et que d'un coup, tu en enlèves 25 et tu perds le général comme ça. Alors là, on en parle parce que c'est un Français, mais j'aurais été scandalisé de la même manière si ça avait été un autre coureur. Enfin, c'est inadmissible. T'enlèves une victoire à un classement général pour un coureur. Enfin, c'est quand même. Alors certains vont dire, ah, c'est que le Tour de Hongrie. Mais quand t'es pro, que t'es au départ d'une course, tu veux toutes les gagner, qu'elles soient grandes ou petites. Tu vas pas au départ d'une course pour pas la gagner. Donc, de voler une victoire comme ça sur une décision aussi arbitraire et pardon, mais nulle, je peux pas comprendre ça, quoi. Enfin, moi, ça m'aurait vraiment fait sortir de mes rails. Et si j'avais été à la place de Benoît Cosnefroy, j'aurais vraiment pété les plombs, quoi. C'est inadmissible, simplement. J'ai rien d'autre à dire parce que je suis scandalisé.
Voilà, ça y est. Mais c'est vrai que Cosnefroy, il n'aura pas beaucoup d'occasions de gagner des classements généraux comme ça, de courses comme le Tour de Hongrie. C'est vrai que c'est un immense scandale. François, Maxime, j'imagine que vous partagez l'avis de Jérôme.
Bah, c'est un peu incompréhensible du point de vue. Enfin, pour les organisateurs, faire ça, c'est s'assurer que personne ne voudra revenir sur leur course l'année prochaine, parce que c'est vraiment genre de galvauder ton produit, dire bon, au final, le général, est-ce que c'est vraiment important, arrêtons-nous là, parce que voilà.
Non, on en a marre.
Pas, ouais.
On a vu la crustation écran qui est passée de 20 à 4 km de l'arrivée en 15 secondes. C'était un peu perturbant quand même. Un petit mot quand même sur Soderqvist, coureur de l'équipe Lidl Trek. Je l'ai découvert il y a 2 ans au Tour de Bretagne, qu'il avait gagné, il me semble. Très bon coureur à suivre dans le futur parce qu'il est en train peut-être de progresser. Il est jeune et c'est le futur de l'équipe Lidl Trek en tout cas.
Remarquable rouleur, Jakob Soderqvist, avec d'autres qualités également. Mais voilà, il nous a volé notre Benoît Cosnefroy. Ouais, donc ça, c'est pas normal et ça rend notre Jérôme pas content. Et nous, on n'est pas content que Jérôme n'est pas content. Voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire donc sur ce qu'il s'est passé cette semaine, le Tour de Hongrie évidemment, mais surtout le Giro. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Qu'est-ce qu'on attend de cette suite de Giro? Tu disais que tu voyais tout, François.
Moi, je te dis, maillot rose récupéré par Vingegaard demain, mardi.
Sur le chrono.
Il le repère dans la foulée en laissant filer une échappée pas dangereuse et il le reprend sur l'étape qui finit. Et c'est l'étape de
Aoste-Pila, voilà, la 14e étape.
Ouais. Celle-ci, samedi. Et après, il ne le lâche plus. Et
ce sera à suivre d'ailleurs, hein, les étapes samedi, dimanche sur RMC. T'es d'accord avec ça, Jérôme?
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je suis pas sûr que Vingegaard gagne le chrono, par contre.
Ah non, non.
Qui domine ses rivaux au classement général. Ouais, voilà, déjà parce qu'il y a Ghana. Donc, mais sinon sur le scénario, je suis entièrement d'accord avec François.
Petit point sur le programme de la semaine, peut-être.
Vas-y, Maxime.
42 km de chrono, donc ce mardi entre Viareggio et Massa. On a une étape un peu casse-pâte mercredi, 195 km entre Porcari et Chiavari. La 12e étape, ce sera donc jeudi, Imperia Novi Ligure, 175 km, ça finit plat, ça peut être pour Magné. La même chose pour vendredi, étape plutôt dédiée au sprinter avec un petit raidard juste à la fin entre Alessandria et Verbania. Samedi donc, étape de montagne, 133 km entre Aoste et Pila. Et puis après, ce sera tout plat dimanche. C'est l'arrivée avant l'arrivée, c'est une étape entre Voghera et Milan, parce que les grandes villes sont à l'honneur cette année sur le Giro. Il y a eu Naples la semaine dernière, il y aura Milan cette semaine et l'arrivée finale à Rome.
Voilà donc le programme de cette deuxième semaine du Tour d'Italie. Merci François, merci Maxime, merci Jérôme d'avoir été avec nous pour ce grand plateau spécial première semaine du Tour d'Italie. Évidemment, on revient la semaine prochaine pour vous présenter pourquoi pas ce qui s'est passé en deuxième semaine. Il peut se passer énormément de choses. Pourquoi pas Paul Magny encore vainqueur? Pourquoi pas Mathis Rondel dans le top 3 du général? J'ai envie de rêver sur ce Giro, évidemment. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast, mettez 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, les amis.
RMC, grand plateau.